Bonjour et bienvenue dans Questions politiques, le rendez-vous du dimanche de France Inter, du journal Le Monde et de France Info. Notre invitée est la ministre du Grand Débat, très souvent aux côtés d'Emmanuel Macron depuis le 15 janvier, quand commençait cet exercice inédit dans notre pays. À moins de 15 jours de la fin officielle, on lui demandera comment elle imagine sortir du Grand Débat national. Elle est aussi bien capable de mener des négociations délicates avec les nationalistes corses que d'avoir des idées explosives comme l'impôt sur le revenu universel. La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault s'est installée dans le studio de Questions politiques. Intervenez sur l'application France Inter ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag QuestionPol.
France Inter, Questions politiques, Ali Badou.
Bonjour Jacqueline Gourault.
Bonjour.
Et bienvenue pour vous interroger la collectivité territoriale de Questions politiques, Nathalie Saint-Cricq de France Télévisions. Bonjour Nathalie.
La collectivité territoriale vous salue, Ali, ainsi que Madame Gourault et les auditeurs et téléspectateurs.
Françoise Fressos du journal Le Monde. Bonjour Françoise.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
Karine Bécard de France Inter. Bonjour Karine.
Bonjour tout le monde.
Jacqueline Gourault, vous aurez droit à votre portrait signé Karine Bécard dans quelques minutes. Vous avez été nommée à votre ministère le 16 octobre 2018. Le 16 octobre 2018, c'est deux jours avant que Jacqueline Mourot, votre quasi-homonyme, lance cet appel, cette vidéo selfie sur Facebook et qui allait lancer le mouvement des Gilets jaunes. Autant dire que vous êtes donc arrivé à ce poste au moment où démarrait le mouvement. Aujourd'hui, quel regard portez-vous sur la mobilisation des Gilets jaunes? Elle continue jusqu'à quand?
Il est difficile de dire jusqu'à quand cela va durer. Ce que l'on voit, c'est que le mouvement s'étiole. Hier, il semble qu'il y ait eu moins de participants. Mais peut-être ce qui est le plus frappant, c'est aussi l'évolution du mouvement. Entre les premiers Gilets jaunes que j'ai rencontrés le jour de mon anniversaire, c'est-à-dire le 20 novembre, dans la Nièvre, à Cosne-sur-Loire, très exactement. Je me souviens parce que je suis allée à leur rencontre, ils avaient demandé à me voir, et un monsieur m'a souhaité mon anniversaire. J'étais très sensible au fait qu'il y regardait sur les réseaux sociaux qui j'étais. Et on avait en face, nous, à ce moment-là, des gens, des retraités, des femmes isolées, des gens qui avaient du mal à finir les fins de mois. Et puis, au fur et à mesure, le mouvement s'est diversifié. Il est devenu, je dirais, multiforme. Mmh. Et puis, il est allé jusqu'à la violence extrême ces dernières semaines. Donc, on sent bien que c'est un mouvement qui a évolué. Et donc, c'est un mouvement... Mais qui continue, certes.
On l'arrête comment, ce mouvement?
Je pense en apportant des réponses à ceux qui sont honnêtes, sincères, qui attendent du gouvernement des réponses à leur situation, à leurs difficultés, à leurs demandes également. Mais peut-être qu'on aura plus de mal avec des gens qui sont incontrôlables.
Françoise.
Vous dites des gens incontrôlables. Le sociologue Jean Viard, lui, il a une autre analyse. Il dit, au fond, ça exprime un malaise extrêmement profond. Il y aura des gilets jaunes peut-être jusqu'à la fin du quinquennat. Est-ce que vous craignez ce scénario? Parce que même s'il y a des mesures concrètes, au fond, il y a un tel malaise existentiel qu'ils resteront quand même mobilisés.
Jacqueline Gourault.
Je crois que ce serait évidemment grave que ce mouvement se perpétue jusqu'à la fin du quinquennat, comme vous venez de le dire. Surtout dans sa forme violente. Et je crois que toute une partie de la population n'en peut plus de cette violence et commence à s'indigner fortement de ces violences qui se font hier encore dans certaines villes. Comme à Nantes, il y a eu des violences importantes, des destructions, même si à Paris, ça s'est passé calmement. Donc je pense qu'il faudra trouver le moyen aussi d'empêcher la violence. D'empêcher que la violence s'installe.
Comment?
Et ben peut-être en régulant davantage les manifestations.
Alors réguler justement, Nathalie. Ça veut dire, on a cru comprendre en vous entendant qu'il y avait le bon grain, gilet jaune et livret gilet jaune, qu'il fallait taper sur livret et négocier avec le bon grain. Comment vous faites quand vous dites il va falloir réguler? Réguler, c'est-à-dire on est plus dur, on fait quoi pour réguler?
Jacqueline Gourault.
Vous savez que le droit de manifester est un droit bien sûr fondamental, mais qu'il y a aussi des règles pour aller manifester. Prenons les syndicats traditionnels qui le savent très bien. Il y a des autorisations qui sont données par la préfecture, c'est-à-dire que les manifestations sont déclarées, qu'elles sont encadrées avec un service d'ordre, à la fois des services d'ordre de ceux qui manifestent et aussi du service d'ordre de la police nationale.
C'est-à-dire que vous demandez un tournant dans la gestion par le ministre de l'Intérieur des Gilets jaunes casseurs.
Écoutez, en tout cas, moi je pense qu'on ne peut pas laisser se développer la violence comme cela de façon impunie éternellement.
Donc vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron, Karine, quand il dit si vous continuez à les manifester, vous êtes complice du pire?
Ben, c'est-à-dire que quand vous allez manifester dans des situations où il y a une violence extrême, effectivement, vous pouvez être considéré comme quelqu'un qui accepte que la violence se perpétue.
Mais c'est en quelque sorte dire « il est interdit de manifester le samedi ».
Non, c'est pas la même chose. Manifester, c'est un droit, encore une fois. Simplement, il faut que ce soit encadré et qu'on évite les violences.
Françoise.
Une proposition de loi anti-casseurs devrait être prochainement votée. Est-ce qu'il faut aller au-delà ou est-ce qu'il faut l'appliquer très strictement?
Jacqueline Gourault. Je crois qu'on a de nombreux outils qu'il faut appliquer strictement. Il faut que le droit revienne en force et que on arrête ces débordements qui font beaucoup de dégâts humains et matériels.
Attendez, quand vous dites on a beaucoup d'outils, ça veut dire qu'on a déjà suffisamment d'outils, qu'on n'avait pas besoin de cette loi anti-casseurs?
Je considère que la phrase de Françoise Fressos contenait bien sûr cette nouvelle loi. D'accord. Qui va être définitivement votée.
Puisqu'on parle des outils de maintien de l'ordre, que penser de l'usage des LBD? Le Conseil de l'Europe demandait encore récemment à la France de suspendre l'utilisation de cette arme dans l'encadrement des manifestations. Est-ce qu'il faudra bien finir par ne plus permettre l'usage des LBD par les forces de police?
Écoutez, en France, on a quand même eu beaucoup de manifestations. On a un certain nombre de réglementations dans la police et la gendarmerie. On évite d'utiliser les armes à feu. Il faut quand même le rappeler. Et il faut bien que les policiers... Bah oui, mais vous savez, parfois, faut le dire. Les choses assez simples, faut les dire. Et il faut remarquer quand même que il n'y a eu aucun mort dans toutes ces manifestations. Mais bien sûr, heureusement.
Il y a eu aussi
des violences sur la police.
Bien sûr.
Et donc, quand on va manifester dans des manifestations, on peut être pris dans des violences, parfois par d'autres manifestants d'ailleurs, et on voyait d'ailleurs des manifestants qui essayaient de réguler les autres. Je sais pas si on a vu souvent des images, mais il faut bien que la police ait aussi des moyens de se défendre. Alors, j'entends ce que vous dites sur ces balles. Ceci dit, on a vu aussi dans les déclarations qui ont été faites que c'était associé à des manifestations pacifiques. Il fallait que vous relisiez clairement. Et je crois que les manifestations en France n'étaient pas très pacifiques. Et il faut donc aussi des moyens à la police pour se défendre et pour établir l'ordre.
On va parler du grand débat, de la manière aussi dont on peut imaginer politiquement une sortie à cet exercice qui dure depuis le 15 janvier et qui donc doit se terminer le 15 mars. Mais Jacqueline Gourault, d'abord votre portrait signé Karine Becker.
Jacqueline Gourault, vous êtes précisément dans ce gouvernement à la place qu'il vous faut. Certes, la mission n'est pas simple, recréer de la cohésion entre les territoires sous la présidence d'Emmanuel Macron, mais c'est ce que vous, l'élu du Loir-et-Cher, avez toujours su faire. Sentir très vite ce qui se passe sur le terrain, avoir cette vraie facilité pour créer du lien. En fait, vous, la petite fille et fille de marchand de chevaux, connaissez tout de la vie des collectivités et réussissez parfaitement à incarner la ruralité. Autrement dit, si vous, Jacqueline Gourault, vous êtes entrée au gouvernement, ce n'est pas seulement parce que François Bayrou, qui en sortait, le réclamait. François Bayrou, que vous soutenez et que vous défendez indéfectiblement depuis bientôt 40 ans, mais la réalité, c'est que lui aussi s'appuie beaucoup sur vous, parce que vous voyez tout, parce que vous captez tout, parce que vous organisez tout. Voilà sans doute pourquoi il n'a rien oublié de la toute première fois où vous vous êtes rencontrés.
On m'avait dit, il y a une fille bien à Blois, elle tient une association. Elle faisait pas de politique encore, elle pensait à en faire, je suis sûr. Mais... Et puis, il y avait 12 personnes à la réunion. Et il y avait Jacqueline Gourault.
Et il y avait Jacqueline Gourault. Quand il raconte cette anecdote, nous sommes le 16 avril 2007, vous êtes porte-parole du candidat Bayrou, persuadé de réussir à se qualifier pour le second tour de l'élection présidentielle. En tout cas, comme lui, vous avez toujours été une centriste démocrate chrétienne et aujourd'hui vous êtes vice-présidente de son parti, le Modem. En fait, à bien vous observer, Jacqueline Gourault, vous, la professeure d'histoire géo, vous êtes finalement tombée assez vite dans la marmite de la politique. Dès l'âge de 33 ans, conseillère municipale, puis maire de la Chaussée Saint-Victor, 4000 habitants pendant 25 ans, sans oublier conseillère départementale et conseillère régionale, et puis vous êtes devenue sénatrice du Loir-et-Cher au tout début des années 2000, jusqu'à ce que vous soyez très récemment nommée ministre. Seulement, la vraie bataille que vous avez menée, Jacqueline Gourault, celle qui vous a permis de montrer qui vous étiez, date de 1993. Vous espériez devenir députée face à Jack Lang, ce très emblématique ministre de la Mitterrandie.
Mon adversaire, finalement, est un couard. Il manque de courage. En politique, c'est la qualité à laquelle j'attache le plus de prix.
Peut-être comme rester fidèle à ses idées aussi, ce qui explique peut-être la polémique de cette semaine. Vous avez proposé un impôt sur le revenu universel, une conviction partagée avec François Bayrou depuis pas mal d'années, depuis 2002, depuis sa première candidature à l'élection suprême. Dimanche dernier, il vous a mollement épaulé. En tout cas, vous, Jacqueline Gourault, sur ce sujet, vous n'avez pas changé.
Réaction, Jacqueline Gourault.
Non, je suis assez fidèle par nature. Et je n'ai pas changé sur la proposition que j'ai évoquée effectivement avec le journaliste du JDD.
La semaine dernière, et juste pour que tout le monde ait les idées claires, c'était sur l'idée d'un impôt sur le revenu universel.
Oui, et je l'ai évoqué comme quelque chose auquel, enfin, qui était une idée personnelle. Je tiens à le préciser aussi tout de suite. Ce n'était pas, une proposition que faisait le gouvernement. Et comme l'a rappelé Karine.
C'est pas grave.
Excusez-moi. C'est une. Non, mais vraiment, je vous prie de m'excuser. C'est une vieille proposition de notre famille politique, dans le sens où nous croyons que faire partie de la nation, faire partie d'une société, c'est participer à l'ensemble de la vie publique et que, au fond, le lien avec l'impôt est quelque chose aussi qui permet d'éviter la fracture sociale.
Mais il y a aussi les effets de contexte, Jacqueline Gourault.
Bien sûr.
Et vous savez qu'en le proposant, cette idée, ou en la rappelant à ce moment-là, c'était explosif. Et puis on vous a rétorqué que les Français, ils payaient tous l'impôt, la CSG, la TVA, et que finalement, cet impôt universel, il existe en vérité déjà. Nathalie.
Et puis, à quoi ça sert? Pardonnez-moi. On entend Gérald Darmanin proposer un certain nombre de choses, parler des successions. On a un peu l'impression, et on a eu l'impression, avec la clôture, avec votre proposition du dimanche, que c'était une espèce, alors certains ont dit un concours l'épine des inventions fiscales.
Et surtout, un ballon d'essai?
Un ballon d'essai pour certains, mais ballon d'essai pourquoi? Est-ce que ça donne pas tout simplement l'impression aux Français qu'il y a une instabilité fiscale permanente, qu'on ne sait pas où on va, et ce qui est totalement malsain pour l'économie?
Jacqueline Gourault.
Très honnêtement, l'interview que j'ai eue avec le JDD était une interview sur les territoires, la politique des territoires, etc. Et à la fin,
vous en coincez.
Comme toujours, le journaliste me pose une question sur le référendum, sur Benalla, sur la politique fiscale, et j'ai répondu comme cela. Bon, j'avais pas l'intention de faire une déclaration tonitruante. J'avais simplement l'intention d'évoquer une idée, je dirais plutôt sociétale et d'appartenance à une communauté de citoyens. Voilà.
Françoise.
On va passer à autre chose. Vous êtes aux côtés d'Emmanuel Macron dans la plupart des grands débats qui se sont déroulés sur le territoire. Une question, est-ce que le président de la République a changé à l'occasion de ces grands débats? On disait qu'il était éloigné des Français, éloigné des partis, éloigné des corps intermédiaires. Est-ce que, d'une certaine façon, il s'est corrigé à l'occasion de ce grand débat ou, au fond, il a affirmé le même caractère?
Jacqueline Gourault.
Je crois que ce débat a été important pour le président de la République et pour les Français. Et je crois très
Pas de langue de bois, Jacqueline Gourault.
Non, non,
répondez
non, non.
Précisément
je
à François
non, mais je suis en train de chercher l'expression exacte, parce que je crois que ce grand débat a permis au président de la République et aux Français de se retrouver. Il y avait eu, c'est vrai, à la fin du mois de décembre, une situation un peu tendue, un peu difficile. Le président de la République avait pu aussi, il l'a dit lui-même, choqué par certaines déclarations, il l'a reconnu. Et je crois que ce grand débat et la prestation qu'il a faite et la manière dont il s'est comporté a montré aux Français que il n'était pas ce qu'il pensait de lui. C'est-à-dire qu'il était beaucoup plus en proximité, qu'il connaissait les dossiers. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas été élu local qu'il ne connaissait pas les territoires, etc.
Mais là, on ne parle
etc.
pas d'Emmanuel Macron, on parle des élus. Est-ce qu'il a changé son regard sur les élus? Moi, je me souviens d'une campagne pour la présidentielle où il avait des mots assez sévères à l'endroit des élus et de ceux qui faisaient carrière politique. Est-ce que ce regard-là n'est plus le même aujourd'hui? Est-ce qu'il a compris quelque chose? Est-ce qu'il a saisi quelque chose?
Franchement, moi, je n'ai jamais ressenti de la part du président de la République, même quand c'était Emmanuel Macron candidat,
le mépris
un quelconque mépris pour les élus locaux.
Bon, s'il vous a nommé ministre à ce poste-là, c'était bien pour renouer avec les élus locaux.
Oui, mais
c'était bien pour réparer une relation dégradée avec les collectivités territoriales.
C'était présenté comme ça.
J'étais déjà ministre auprès de Gérard Collomb et je m'occupais déjà des collectivités territoriales. Ce qui a été important pour le président de la République et le Premier ministre, ça a été aussi de rassembler deux ministères, celui de la cohésion des territoires et celui des collectivités territoriales qui apparaissaient un peu difficiles dans la gestion quotidienne. Et j'ai été choisie, mais justement, puisqu'il m'a choisie, moi, il a choisi une élue locale. Parce que je crois, et merci à Karine Becca de l'avoir dit, je crois que je suis aussi reconnue par les, avec modestie je le dis, mais par les élus locaux comme une des leurs. Et donc, il m'a choisie parce que je suis aussi de la communauté, si je puis dire, des élus locaux.
Plus que 15 jours avant la fin du grand débat, puisque c'est votre ministère qui l'organise et que vous êtes aussi la ministre du grand débat, comment est-ce que ça doit se terminer, Jacqueline Gourault ?
Ce qui est important, à mon avis, c'est le moment de la restitution. C'est quelque chose qui va donner une étape qui doit être sérieuse, complète, transparente. Et les garants qui ont été choisis sont là aussi pour cela. Et donc, après ces 10 000 réunions, plus d'un million de contributions...
Un million, vraiment ?
Alors, écoutez,
les journalistes ont regardé de près. Le gouvernement dit qu'il y a eu un million de contributions. En vérité, sur la plateforme en ligne du Grand Débat, il y a eu 250 000 contributions écrites et il y aurait 800 000 clics sur des questionnaires à faire multiples.
C'est-à-dire qu'il y a plusieurs contributions. Vous avez raison, il faut peut-être le préciser. Il y a les contributions écrites, directes, ce que les gens écrivent. Puis, il y a les réponses à des questions qui sont posées et tout ça. Et puis, il y a les cahiers qui ont été remplis dans les mairies. Tout cela fait effectivement un million de participations.
Mais qui doit restituer les débats ? Est-ce que ce sont plusieurs ministres ? Est-ce que c'est le président de la République ? Est-ce que ça peut être vous ? Comment on élabore cette sortie ?
Cette sortie n'est pas encore construite. Nous n'avons pas encore fait le choix de la...
Mais il faut vous dépêcher.
Il y a la restitution de ce qu'il y a, ce qu'ont dit les Français. Et tout cela va être fait dans la plus grande transparence. Après, il va y avoir les réponses qu'on apporte aux Français. C'est l'étape suivante.
Alors, chaque ministre est encouragé à formuler deux à trois propositions. Est-ce qu'on peut se permettre de vous demander quelles seront les vôtres ?
Jacqueline Gourault.
Au-delà peut-être de l'impôt sur le revenu universel, auquel vous avez l'air de tenir quand même.
Matignon a dit que ça n'était pas sur la table,
je tiens à vous rappeler. Donc vos propositions à vous, vos contributions, ce sera quoi ?
Écoutez-moi, mes contributions, vous savez que le mouvement est parti beaucoup du monde rural. Il est parti beaucoup aussi des villes moyennes. Et je pense qu'il faut donner une réponse, au fond, à cette France qui se sent délaissée, qui trouve que la proximité des services publics, par exemple, s'est éloignée. Donc, je pense qu'il faut répondre à ce besoin de toute une catégorie de population qui n'habite pas les métropoles, qui n'habite pas les grandes villes et qui habite des zones. Bon, il y a le mot périphérique qui a été un peu utilisé par un certain nombre de personnes et de géographes. Je crois qu'il faut apporter une réponse.
Mais
par exemple, concrètement, je pense qu'il faut construire ce que l'Europe, et on pourra faire un lien d'ailleurs, appelle un agenda rural. C'est une proposition européenne qui a été soutenue par la France d'ailleurs, de construire des politiques pour ceux qui se sentent délaissés. Je voudrais juste dire que cette année, on célèbre les 40 ans de la politique de la ville. Je crois qu'il faut aussi répondre à ceux qui vivent sur les autres territoires.
Nathalie, Madame Gros, j'ai cru comprendre que dans la restitution, il y aurait essentiellement des choses qualitatives. C'est-à-dire qu'on ne serait pas capable, en lisant cette restitution, de savoir s'il y a 80% des Français qui se sont exprimés, qui sont pour le retour de l'ISF, que ça serait surtout qualitatif. Est-ce que vous me confirmez cette information ou est-ce qu'on aura des occurrences? C'est-à-dire qu'on aura une sorte de palmarès de ce que les Français souhaitent avec des données un peu chiffrées par rapport à tout ce qui vous est remonté.
Jacqueline Gourault.
Je ne suis pas chez les garants, je ne suis pas une garante chez les résultats, ça. Mais je pense qu'on ne pourra pas avoir que du qualitatif, il faudra bien sûr aussi avoir du quantitatif. Alors, est-ce que c'est du quantitatif chiffré? Ça, je ne sais pas dire, mais il faudra bien qu'il y ait...
S'il y a une personne qui parle des éoliennes et 100 000 qui parlent de l'ISF, ben c'est à un moment donné où ça doit apparaître.
Non, mais je veux dire chiffré exactement. Mais en tout cas, il faudra qu'il y ait un ordre dans
les
réponses, bien évidemment. Quelles sont les préoccupations principales des Français? Il faudra bien qu'on dise celles précisément qui reviennent le plus souvent.
Et là, pour le moment, vous avez une idée?
Moi, j'ai déjà des idées. Après, quand je vais dans les réunions, que ce soit avec les élus ou avec la population, ou avec les Gilets jaunes, puisque je suis allée aussi à des réunions organisées par les Gilets jaunes, j'entends les questions qui reviennent en permanence.
Françoise Fressoz.
Vous êtes ministre de la cohésion des territoires. On a vu cette fracture entre les deux France, et on ne comprend pas aujourd'hui qui mène la politique d'aménagement du territoire. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a encore une? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que ce sont les régions? Est-ce que ce sont les métropoles? Est-ce que vous pouvez nous renseigner là-dessus? Parce qu'en fait, on ne voit pas tellement qui est l'acteur central.
Jacqueline Gourault.
Alors, nous sommes dans une France décentralisée, comme vous le savez, et un certain nombre de compétences ont été transférées, et par exemple aux régions, par la loi NOTRe. Et la région a une compétence d'aménagement du territoire. Mais mon ministère a aussi une compétence d'aménagement du territoire.
Et en fait, c'est ce que les Français ne comprennent pas bien. On ne comprend pas où sont les responsabilités.
Moi, je crois que les responsabilités sont comprises à partir du moment où l'État et les collectivités territoriales travaillent de concert.
Ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent.
Ce qui n'a pas toujours été le cas. Pas seulement depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron. Il y a toujours eu des période de difficulté avec les collectivités territoriales. Je vous rappelle que sous le quinquennat précédent, quand le président de la République a envisagé de supprimer les départements, ça a fait un peu de remue-ménage dans les campagnes, si je puis dire. Donc, je pense qu'il y a en France une nécessité que le rôle de l'État et des collectivités territoriales sont complémentaires. Je trouve que c'est stupide d'opposer les collectivités territoriales et l'État.
On a quand même l'impression que le maire va à nouveau jouer un rôle un peu plus central depuis ce mouvement des Gilets jaunes. On se trompe ou pas quand on a cette impression-là?
Je crois qu'effectivement, le maire, c'est la proximité. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les Français ont besoin de proximité.
Donc là, Emmanuel Macron change bien de regard quand même sur les élus. C'est-à-dire qu'il y a la volonté de tendre la main aux maires et sans doute de leur redonner du pouvoir. Est-ce que vous allez leur donner des pouvoirs supplémentaires?
Je ne veux pas vous contredire, mais Emmanuel Macron a toujours cru au rôle du maire, qui est celui qui est à proximité de la population, qui répond tous les jours aux besoins de la population, qui construit les politiques publiques au plus près du territoire.
Les maires de France n'ont pas forcément ce sentiment-là, quand
même. Alors, les maires de France ont un sentiment qui est lié à l'intercommunalité et qui est lié à la réforme qui a été faite aussi par la loi NOTRe sous le précédent quinquennat, mais qui s'est mise en place à la fin du quinquennat précédent, c'est-à-dire la volonté d'agrandir les intercommunalités. Et vous savez que parfois ça s'est fait avec sur la volonté des élus, mais parfois ça s'est fait un peu au forceps. Et que donc aujourd'hui, l'intercommunalité fonctionne plus ou moins bien selon les territoires. Et il faudra sûrement, je le dis très fortement, je suis une vraiment quelqu'un qui croit à l'intercommunalité, mais l'intercommunalité ne peut marcher que si elle est assise sur le volontarisme, sur le partage d'ambition pour un territoire, sur des politiques publiques, et donc il faut redonner à l'intercommunalité son sens premier, et peut-être lui apporter des souplesses par rapport aux décisions qui ont été prises précédemment.
Il est midi et demi, la ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales, Jacqueline Gourault, est l'invitée de Questions Politiques.
France Inter, Ali Badou, Questions Politiques.
Françoise Fressoze.
Alors les associations d'élus disent on est à une étape où il faut une nouvelle pas vers la décentralisation.
Un acte 3 de la décentralisation.
Acte 3. Et on sent qu'Emmanuel Macron, lui, reste quand même assez centralisateur. En tout cas, il dit « je veux bien déconcentrer ». Décentraliser, c'est où en est-on et est-ce qu'on peut imaginer des aménagements constitutionnels plus importants que ce droit à la différenciation que vous évoquiez ?
Jacqueline Gourault.
Françoise Fressoze, vous avez raison. Il faut parler à la fois de déconcentration, de décentralisation et de différenciation.
Alors faisons de la pédagogie expliquer la différence entre ces termes.
Parce que tout est important. D'abord la déconcentration, qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire que Emmanuel Macron est infiniment persuadé que l'on n'a pas assez, diminuer le nombre de fonctionnaires au niveau central et qu'on l'a trop diminué au niveau local. Et que donc, il faut ramener de la fonction publique des fonctionnaires sur les territoires. Et des fonctionnaires qui sont là pour accompagner les élus locaux et non pas pour être, des gens qui contrôlent les élus locaux.
Donc ça, c'est la déconcentration.
Ça, c'est la déconcentration.
Ça veut dire moins de fonctionnaires à Paris, plus davantage dans les collectivités
locales.
Oui, et locales.
En particulier des fonctionnaires qui apportent de l'ingénierie, c'est-à-dire de la matière grise sur les territoires, techniques, financières, etc.
Décentralisation,
Décentralisation, c'est transmettre de nouvelles compétences aux collectivités territoriales.
Vous y êtes prête ?
Alors, d'abord, je crois qu'il faut préciser qu'on a déjà beaucoup donné de compétences aux collectivités territoriales.
Alors, sans leur donner toujours les moyens.
Alors, on peut peut-être trouver de nouvelles compétences qui pourraient être transférées. Je vais prendre un exemple. Par exemple, on entend parler des routes pour les départements. Est-ce que il y a encore des routes nationales ? Vous savez que le département est une collectivité qui gère les routes partout sur le territoire, sauf les routes nationales. Est-ce que, par exemple, on ne pourrait pas transférer aux collectivités locales, les routes nationales qui deviendraient des routes départementales gérées par le département. C'est une question. Je sens que les élus sont partagés, y compris les départements sur le sujet. Est-ce que ça doit être toutes les routes que celles ou que les départements qui sont intéressés ? Voilà, ça c'est de la décentralisation parce qu'on transfère une compétence.
Et la différenciation,
enfin ? La différenciation, c'est en fait accepter que ça ne soit pas un même niveau de collectivité forcément qui fasse qui exerce une compétence. Je vais prendre un exemple concret. Aujourd'hui, les collèges sont construits par les départements.
Oui.
Les lycées sont construits par les régions. Il y a eu un débat d'ailleurs dans la loi NOTRe très important où un certain nombre dont j'étais pensait que ça aurait peut-être été intelligent de mettre à un même niveau de collectivité, ces constructions des lycées et des collèges. Peu importe le département ou la région, mais peu importe. Bon, aujourd'hui, la différenciation, ce serait, qui est prévue à l'article 72 de la Constitution, dans la réforme initiale, ce serait de dire, eh bien, on peut permettre, dans certains cas, quand il y a un accord local, à un département de construire le lycée et le collège. Ça, c'est quelque chose. Et puis, deuxième idée de la différenciation, c'est que une politique ne s'applique pas exactement de la même manière partout. C'est-à-dire donner à certaines collectivités le droit d'appliquer la politique d'une manière différente. Je vais prendre un exemple, peut-être, d'actualité, puisque vous savez que nous traitons en ce moment le problème alsacien. Eh bien, en Alsace, nous avons, dans l'accord que nous avons passé avec les Alsaciens, il y a un accord sur, au fond, le bilinguisme en Alsace, qui est quelque chose de particulier, puisque nous sommes dans une zone frontalière, que l'apprentissage de l'allemand, comme partout en France, diminue en Alsace, alors que c'est d'abord un intérêt culturel pour les Alsaciens que de parler allemand, mais c'est aussi un intérêt économique pour les jeunes, puisque beaucoup d'entreprises allemandes viennent s'installer en Alsace, et que des jeunes Français peuvent aller travailler de l'autre côté du Rhin dans des entreprises allemandes, et que naturellement c'est très important de parler allemand. Donc développer dans ce territoire, avec le rectorat, une politique particulière sur le bilinguisme, c'est ce qu'on appelle le droit à la différenciation, enfin par anticipation. On est obligé de le passer dans la loi, parce que le principe même n'est pas encore voté dans la Constitution.
Juste une Nathalie très courte question. Est-ce vous seriez favorable à ce qu'on revienne sur le non-cumul des mandats? C'est-à-dire qu'on adapte, qu'on change en se disant que finalement...
Jacqueline
Gouraud. C'est un truc, on n'a pas le droit d'y toucher, non. Parce que les Français sont contre le cumul.
Ah ben, ça, quand vous allez dans les réunions actuellement, personne ne vous parle de revenir sur ce sujet. Alors bien sûr, ceux qui posent le sujet, ce sont les élus. Enfin, du moins certains, pas tous. La première chose que je voudrais...
Mais vous trouvez ça absurde d'avoir interdit le cumul des mandats? Il faut des élus, par exemple, des députés qui soient proches de leurs élus.
Surtout et donc, les nouveaux,
quand
par
on
exemple,
est député maire, on connaît mieux les réalités locales, Jacqueline Gouraud. Ça, vous le pensez, au fond de vous?
Bien sûr.
Vous n'avez pas le droit de le dire, mais vous le pensez.
Non, c'est pas que j'ai pas le droit de le dire. La première chose que je vais vous dire, parce que je crois qu'on ne le redit pas assez, la première chose que je voulais vous dire, c'est quand on dit non-cumul des mandats, il faut savoir qu'aujourd'hui, un député ou un sénateur peut avoir un mandat local. On n'est pas sous le régime du mandat unique.
Oui. Non.
Il peut être conseiller départemental. Ça s'appelle être en proximité, être conseiller
départemental.
Conseiller
municipal, etc.
Mais il n'a pas le droit d'être maire.
Il peut être conseiller municipal, il peut être conseiller communautaire. Voilà, moi je suis d'ailleurs conseillère municipale. Bon, c'est quelque chose qui existe. Alors après, c'est les exécutifs. Est-ce qu'il faut revenir sur les exécutifs? Moi, je crois qu'il faut être très prudent, surtout que dans le climat actuel... Je dirais, ce n'est pas forcément quelque chose qui serait compris des Français.
Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a un climat anti-élu très fort. C'est ça qui remonte.
Et je voulais dire aussi que on dit ah mais pourquoi dans les communes de 4 000, 5 000 habitants, ça serait pas plus faisable que dans les grandes communes.
Jusqu'à 10 000 habitants.
Oui, 10 000 habitants. Et déjà,
c'est une proposition
de loi.
Que
vous touchez déjà énormément de communes en France.
90 ou 94%, voilà. On est d'accord.
Mais il y a aussi, une question qui se pose. Parfois, moi j'ai été maire d'une commune de 4000 habitants, ce sont pas les communes où vous avez un environnement, administratif, technique, les plus développés. Et plus vous descendez dans la strate de population, plus le maire est polyvalent, si je puis dire. Et donc, ce serait une erreur de penser que, puisque c'est une petite commune, c'est plus facile de cumuler. Je ne sais pas comment vous expliquer cela clair. Plus clairement.
Mais vous avez cumulé quand même. Vous étiez sénatrice, même vice-présidente du Sénat, et vous étiez encore la maire de la chaussée Saint-Victor.
Oui.
Saint-Victor,
oui.
Pardon.
Oui, très bien.
Vous avez réussi à le faire, sans
J'ai
problème.
Réussi à le faire parce que j'avais une pratique depuis de longues années et que j'avais un très bon premier adjoint qui faisait l'essentiel, je le dis très sincèrement, l'essentiel du travail toute la semaine pendant que j'étais au Sénat. D'ailleurs, c'est lui qui est devenu maire derrière. Et maintenant, il est député parce qu'il était aussi le suppléant.
Mais vous avez beaucoup cumulé, Jacqueline Gouraud. On a l'impression que la vie politique, elle n'a pas tant changé que ça. Pourquoi tout à coup, c'est plus possible? Parce que juste les Français, en fait, ne le veulent plus. C'est ça. C'est la question de Françoise Fraisseau. Il y a une atmosphère délétère contre les élus.
Il y a une atmosphère. Ça s'est ressenti. Et puis, derrière ce sujet, excusez-moi, il y a le cumul des indemnités. Parce que c'est ça que les Français...
Écrétés.
Oui, bien sûr.
C'est plafonné, de toute
façon. Oui, mais même si vous êtes écrétés, les Français pensent toujours... que le cumul des indemnités donne des résultats très importants. D'ailleurs, on m'a demandé un jour combien je gagnais en tant que ministre. Je l'ai dit dans une réunion et j'ai vu que, évidemment, on trouvait que c'était un bon salaire. Mais j'ai vu aussi dans les yeux des gens qui m'interrogeaient qu'ils pensaient qu'un ministre gagnait beaucoup plus que cela.
Et vous gagnez combien ?
Alors, c'est 8000 euros brut.
On se souvient aujourd'hui, on se rappelle de l'importance des élus, non. Si ce n'était pas le cas.
8000 euros, excusez-moi, net. J'ai dit une bêtise, net.
Net.
Je reviens sur ce que je viens de dire, 8000 euros net.
C'est noté. Alain Juppé, devant le président de la République, lui demandait de l'écouter, d'écouter les maires, car ils sont, je cite Alain Juppé, d'une certaine manière la colonne vertébrale de la République. On a besoin aujourd'hui de rappeler l'importance des maires et des élus locaux, et je vous vois acquiescer Jacqueline Doureau. On a aussi besoin de rappeler l'importance des corps intermédiaires. Est-ce que vous pensez que, comme Laurent Berger, il faudrait que le grand débat se conclue par une grande conférence sociale ?
En tout cas, c'est prévu qu'il y ait une consultation très importante des corps intermédiaires. C'est prévu dans la partie qui va après le 15 mars.
Donc il y aura une grande conférence sociale ?
Oui, bien sûr, il y aura des rencontres. Alors, je ne sais pas si vous appelez ça conférence sociale, je ne sais pas comment ça s'appellera.
Des réunions thématiques.
Exactement, mais il y aura des réunions, effectivement, avec l'ensemble des corps intermédiaires.
Mais ça prendra la forme de quelque chose qu'on aurait appelé en d'autres temps un Grenelle ?
Je ne sais pas, parce que les Grenelles, en général, étaient faits pour prendre des décisions sur un sujet précis. Non, mais sur un sujet précis, ne me laissez pas finir. Sur un sujet précis, là, je crois que c'est la poursuite du grand débat et qu'il y aura un échange avec les corps intermédiaires, avec les syndicats, sur un certain nombre de sujets. Me faites pas dire ce que je ne dis pas.
Voilà. Loin de moi cette intention. Françoise, puis Nathalie.
Est-ce qu'au-delà de cette consultation des partenaires sociaux, vous pensez que la fin du quinquennat doit marquer un vrai changement de gouvernance, c'est-à-dire consulter davantage, écouter davantage, ou est-ce qu'on va vers une verticalité toujours assumée ? Parce qu'au fond, ce que vous dites aussi, c'est qu'il y a un très fort courant de l'opinion anti-élus locaux et anti-corps intermédiaires. Comment vous sentez-vous la fin du quinquennat ?
Jacqueline Gourault.
Moi, je crois qu'il faut défendre à tout prix la démocratie représentative. Je crois qu'elle est importante, mais qu'elle n'exclut pas la démocratie participative. D'ailleurs, par l'expérience que j'ai, quand vous êtes maire, comme je l'ai été, il est inimaginable de ne pas faire participer vos concitoyens dans votre commune. Alors, certains ne le font pas, je suis bien d'accord. Mais en général, ils peuvent avoir des ennuis aux élections suivantes. Mais il m'est arrivé souvent, sur des grandes questions qui concernait ma commune, où je vois les maires voisins de moi, font des réunions de quartier, des réunions thématiques. La démocratie participative existe en France, simplement. Il faut peut-être la développer, il faut peut-être l'améliorer, il faut peut-être amener dans la loi des modifications qui permettent aussi, au niveau local comme au niveau national, de d'établir davantage la démocratie participative. Je crois que c'est quelque chose de très important.
Mais participer, c'est bien, mais on a le sentiment que les Français veulent aller plus loin. Ils veulent participer à la décision, en fait. Ils veulent décider. Comment on leur donne le curseur sur ça ?
Jacqueline Gourault.
Moi, je crois que la démocratie représentative est quelque chose qui est très, très structuré, qui résulte de l'élection au suffrage universel, récurrente, régulière, et que donc le peuple s'exprime régulièrement sur leurs élus. Et donc, à travers les élus qu'ils choisissent, ils participent directement aux choix qui sont faits par la nation, que ce soit au niveau national comme au niveau local. Je suis de celles qui défend vraiment cette notion de démocratie représentative.
Nathalie.
Madame Gourault, on a cru comprendre que dans cette crise des Gilets jaunes, Emmanuel Macron focalisait une certaine forme de violence, voire de haine. Est-ce que vous considérez que ça, quand vous assistez à un certain nombre de débats, que les choses s'arrangent, ou alors que c'est le petit frémissement dans les sondages ? Et deuxièmement, est-ce qu'en faisant une espèce de face-à-face, de corps-à-corps, lui et tous les gens, tel Saint-Louis avec son peuple, est-ce qu'il prend pas un risque ? L'autre soir, avec les femmes, on avait l'impression qu'il était le gouvernement à lui tout seul, allant même jusqu'à parler de la prévention du cancer du col de l'utérus. Est-ce que c'est vraiment une bonne méthode ?
Jacqueline Gourault.
Lui et le peuple.
les institutions de la Ve République font que le président de la République est au cœur de la vie institutionnelle française. Et comment dire, les Français attendent beaucoup du président de la République.
Trop peut-être, non ?
Peut-être trop.
Et à l'inverse, est-ce qu'il n'a pas trop de pouvoir ?
Les institutions de la Ve République ont montré leur solidité. Et en tout cas, dans ce moment particulier qui fait suite au déclenchement de la crise des Gilets jaunes, le président de la République a voulu ce grand débat. Il a voulu ce grand débat et je crois qu'il a eu l'intuition juste puisque les Français ont répondu massivement. En tout cas, les Français ont prouvé qu'ils avaient besoin de parler. Et le président de la République, c'est vrai, s'est impliqué lui-même.
Il est presque tout seul face au...
Pas tout seul. Le Premier ministre participe aussi à des débats. Et également, les ministres participent à des débats. Mais il est vrai que quand certaines chaînes de télévision diffusent les rencontres où il y a le président de la République,
ça
participe
6 heures, 7
heures. À, bien sûr. Mais je crois en tout cas que la solidité des institutions, c'est aussi la solidité du président de la République.
Ça veut dire que quoi qu'il arrive, vous pensez qu'il peut s'en sortir. La première question, c'était est-ce qu'il peut remonter dans l'opinion ? Est-ce que les gens peuvent le re-aimer ?
Jacqueline Gourault.
En tout cas, si on en croit les sondages, il y a une remontée dans les sondages du président de la République et du Premier ministre, d'ailleurs. Et moi, j'ai vu plusieurs de vos confrères journalistes qui expliquaient que c'était la première fois qu'un président de la République, après avoir baissé, remontait dans les sondages. Je pense qu'Emmanuel Macron est un président de la République suffisamment solide, convaincant, volontaire, pour pouvoir effectivement remonter encore dans les sondages.
Est-ce que vous avez fait vos adieux à votre collègue du gouvernement, Agnès Buzyn ?
Pas mal. Écoutez,
vous lui avez souhaité bonne chance.
J'ai fait un déplacement avec elle récemment, dans la Nièvre. Vous allez dire que je vais toujours dans la Nièvre, mais je suis allée plusieurs fois dans la Nièvre, effectivement,
bien, la Bourgogne.
Parce qu'il y avait un problème majeur dans la Nièvre, qui est le problème de la démographie médicale. Et je suis allée avec Agnès Buzyn traiter de ce sujet, et notamment, elle a donner à ce département de la Nièvre, un moyen très important qui est un hélicoptère sanitaire quand on sait que les gens sont à 3 heures d'un CHU de ce département.
Et donc ça ferait une bonne tête de liste aux élections européennes ?
Écoutez, en tout cas, on parle d'Agnès comme une potentielle tête de liste. En tout cas, je pense qu'elle en a à la fois toutes les
non,
capacités.
Non, mais vous en avez parlé avec elle, Jacqueline Gourault.
Eh bien, j'en ai parlé il y a quelques jours avec elle. Je lui ai dit, effectivement, Agnès, on part de toi, voilà.
Et vous lui disiez,
et elle
vas-y.
M'a répondu, la décision n'est pas prise.
Mais vous lui disiez, vas-y.
Je pense qu'elle a les qualités pour le faire.
Quelles sont ses qualités dans la période actuelle ?
C'est une femme qui, comme vous le savez, est médecin. Et elle a cette qualité d'écoute, cette qualité d'empathie qui est très importante. Et en même temps, c'est une femme qui a du tempérament, qui est une femme qui sait prendre des décisions. Et je crois qu'elle a donc toutes les qualités pour faire...
Mais elle va
monter
au gouvernement, d'après ce que vous dites.
Toutes les qualités pour faire une tête de liste. Mais je vais vous dire, il y en a d'autres.
Il
y en a d'autres qui ont aussi beaucoup de qualités.
Nathalie Loiseau.
Nathalie Loiseau connaît très bien
les dossiers.
Le dossier de l'Europe.
Mais
et Nathalie Loiseau
mais ce sera
a
pas
fait
elle.
Plusieurs interviews qui montrent qu'elle est aussi une femme de tempérament, une femme de caractère.
Ça, personne n'en doute.
Et donc, eh bien, écoutez, c'est pas mal.
Mais dites-nous, ce sera pas elle.
Je vais pas vous dire.
Pourquoi
puisque,
pas
mais, écoutez,
vous savez.
La décision n'est pas prise, je vous l'ai dit.
Ah, vous le dites avec un grand sourire.
Mais je le dis
on
avec un grand sourire.
On n'est pas obligé de me croire, Jacqueline.
Ah, mais vous n'êtes pas obligé de me croire, mais je vais vous dire quelque chose. Peut-être que contrairement aux autres partis politiques, ou aux autres listes, nous avons choisi de parler d'abord du fond.
Oh oui, c'est ce qu'on dit, ça. C'est ce qu'on dit quand on trouve pas une tête de liste.
Ah non, c'est pas ce qu'on dit. D'ailleurs, le président de la République, vous le savez, va s'exprimer.
Mais alors, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas dans son parti, d'ailleurs, puisque là, vous parlez de quel parti? Vous êtes au MoDem.
Oui, je suis au MoDem, bien sûr.
Vous parlez de quel parti de la République En Marche?
Il ne vous a pas échappé que nous allons être sur la même liste aux européennes.
Oui, mais vous pourriez fusionner si vous êtes d'accord sur tout.
Je dis pas que. Mais non. Il faut avoir chacun sa sensibilité et justement on est d'autant plus fort, et vous savez bien que le MoDem a sa propre histoire et que En Marche est un parti récent qui se construit tous les jours bien évidemment et qui a sa propre histoire également.
Nathalie. Alors est-ce que vous considérez que peut-être pour incarner la fin du grand débat, les restitutions et le changement, on peut le faire en gardant le même Premier ministre ? C'est-à-dire Édouard Philippe, où il faut envoyer un signal, quelque chose d'assez clair, pour donner l'impression que ça change un peu.
Le Premier ministre, j'appartiens à son gouvernement, est quelqu'un qui est un Premier ministre présent, très actif, qui dit non quand
les propositions de Madame Gouraud ne lui plaisent pas.
Oui, bah,
vous n'êtes pas rancunière.
Si le Premier ministre était là, il vous dirait comment nous n'avons, que le Premier ministre, je sais pas comment vous le dire, et nous sommes très proches. Enfin, voilà. Et le Premier ministre dans la Ve République. Et vous l'avez vu sous les précédents quinquennats, ou plus exactement, la Ve République appelle aussi à une stabilité du Premier ministre.
Et vous plaidez plutôt en faveur de cette stabilité. C'est-à-dire, vous ne pensez pas qu'il faut montrer, alors comme on ne dira pas qu'il y a un tournant, pas de changement de cap, qu'il se passe quelque chose.
Un élan, une
avec une sorte de changement. D'ailleurs, Édouard Philippe se demande si ce n'est pas ce qui va lui arriver, quand on lit tout ce qu'il raconte à droite et à gauche.
Jacqueline Gouraud.
La décision ne m'appartient pas, comme vous savez.
Non, mais vous avez vos convictions. Vous souhaitez qu'il reste.
Et je n'ai pas à donner mon opinion sur le choix qui est celui du président de la République. Simplement, nous sommes une équipe qui fonctionne et autour du Premier ministre Édouard Philippe.
Alors malgré tout, cette équipe, elle prend un certain nombre de mesures tous ces derniers temps, toutes ces dernières semaines, qui penchent plutôt à droite. Je pense à la loi anticasseurs dont on parlait il n'y a pas si longtemps. Je pense aux drapeaux français qui doivent désormais, qui pourraient bientôt être dans toutes les classes. Je pense aux contreparties aux aides sociales. Enfin, il y a une petite musique qui penche quand même sérieusement à droite. Est-ce que vous, MoDem, puisque vous avez des petites différences, des sensibilités différentes, ce que vous disiez à l'instant, est-ce que vous êtes toujours très à l'aise en fait dans cette majorité?
Jacqueline Gouraud. Alors,
je n'ai aucun problème dans cette majorité. Puis moi, je vais vous dire, l'histoire et même la vie politique récente fait que ça n'est pas aussi simple que ça, que l'ordre soit à droite. J'ai connu des ministres de l'Intérieur de gauche qui étaient plutôt pour l'ordre. J'ai pas besoin de citer des noms. Vous voyez bien sûr plusieurs noms qui vous viennent à l'esprit. Je pense que l'ordre, on dit d'ailleurs souvent, on lui donne un qualificatif, on dit l'ordre républicain. Je crois que ça n'est pas une valeur de droite ou de gauche, c'est une valeur républicaine. Et je me sens parfaitement à l'aise. Alors après, on peut avoir des nuances, bien évidemment, sur le fait de mettre un drapeau dans toutes les classes ou pas.
Ça vous plaît?
Ça vous séduit? C'est pas quelque chose auquel j'aurais naturellement pensé. Bon, voilà, mais c'est pas non plus quelque chose qui me choque.
Les contreparties en échange d'aide sociale, c'est dans votre philosophie également ou pas?
J'aime pas trop le mot contrepartie, mais...
C'est le mot du Premier ministre.
Comment?
C'était le mot du Premier ministre.
Oui, très bien, mais parce que ça laisse à imaginer que... comment dire, que les aides sociales doivent nécessairement... Je pense que ce que voulait dire le Premier ministre, et que je partage, c'est que quand on parle d'aide sociale, il faut jamais oublier l'autre volet qui est l'insertion. Et l'insertion par le travail, c'est quelque chose de très important. Et donc, que quand des gens reçoivent des aides sociales, des allocations, comme l'on dit, il y a des gens qui sont plus ou moins éloignés du travail. Et il y en a, trouver le moyen de les réinsérer, même y compris au départ, par, au fond, des heures qui seraient donné, si je puis dire, eh bien, c'est une idée qui est une idée positive pour...
Non, mais travaux d'utilité générale, par exemple,
c'est
comme
vous pensez. Oui, c'est ça. C'est une idée qui permet la réinsertion plus rapide. Donc, je suis d'accord avec cela.
Il reste très peu de temps, Françoise, puis Nathalie.
L'affaire Benalla a créé une très forte tension avec le Sénat. Et vous dites, vous, il faut qu'on essaye de se réconcilier avec les élus locaux. La Chambre des élus locaux, c'est le Sénat. Comment est-ce que vous sortez de ce bourbier ?
Jacqueline Gourault.
C'est le Sénat qui s'est emparé de ce dossier. Une première fois, et puis une seconde fois. Qu'il s'en empare, ça n'est pas un problème, c'est son droit, voilà. Qu'il y ait amalgame entre M. Benalla et des hauts fonctionnaires de l'État qui servent la République, qui sont auprès du président de la République.
Vous pensez au directeur de cabinet du président de la République, du chef de cabinet.
Gênant dans la démarche.
Reformulant.
Donc, je pense que le président du Sénat saura, je l'espère, trouver les voies et les moyens pour sortir lui-même de la situation dans laquelle
il s'est fait déborder,
dans laquelle s'est mise
Philippe
au fond de la commission. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'un certain nombre de sénateurs que je connais bien, par voie de conséquence, puisque j'étais sénatrice, sont un peu mal à l'aise de la manière dont tout cela s'est passé.
En clair, est-ce que je peux me permettre, non pas d'exprimer vos intentions, enfin vos idées, est-ce que Philippe Bas a fait de la politique en mélangeant un certain nombre de choses, notamment en ne respectant pas la séparation des pouvoirs, notamment quand il critique l'organisation au sein de l'Élysée d'un certain nombre de collaborateurs? Est-ce que maintenant Gérard Larcher est un peu enquiquiné, pour parler faiblement, et souhaite poursuivre certaines personnes et épargner un peu plus le chef de l'État?
Jacqueline Gourault.
C'est assez bien dit.
Et donc ?
Ben voilà.
Il faut protéger le chef de l'État.
Non, j'ai rejoint l'analyse de Nathalie Saint-Cricq.
Oui.
C'est-à-dire que il ne faut pas confondre tout et que le Sénat, c'est pas un tribunal, c'est pas. Il faut séparer les pouvoirs, la justice d'un côté. Et
mais
l'enquête de l'autre.
S'ils sont séparés, ça veut dire qu'ils doivent pouvoir contrôler l'Élysée et la présidence de la République ?
Bah, écoutez, il y a des limites à ce qu'une commission d'enquête peut faire.
Un dernier mot avant de nous quitter. Vous savez évidemment que les manifestations se poursuivent en Algérie contre un cinquième mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Est-ce que vous soutenez cette jeunesse algérienne qui se mobilise dans les rues de son pays, Jacqueline Gourault ?
Les liens entre la France et l'Algérie sont des liens évidemment indéfectibles pour les raisons historiques que chacun connaît. Il y a des élections en Algérie avec les mouvements que vous venez de citer, que nous connaissons. C'est une journée aujourd'hui très importante puisqu'on va savoir définitivement qui est ou qui n'est pas candidat. Bien évidemment, nous n'aimerions pas, nous Français, que des chefs d'État étrangers viennent s'immiscer dans la campagne présidentielle française. Et je crois qu'il faut nous aussi respecter...
Oh bah vous n'avez aucun problème pour vous prononcer sur la situation politique au Venezuela, par exemple.
Il faut aussi respecter ce qui se passe en Algérie, respecter au sens large du terme, et laisser les Algériens choisir... Et
mais quand vous voyez cette mobilisation, vous soutenez malgré tout ces jeunes Algériens, Jacqueline Gourault ?
Je ne veux pas m'immiscer dans la politique algérienne. Je pense qu'il faut, et peut-être même si cela peut paraître sur la réserve, il faut se méfier de créer des problèmes là où il n'y en a pas et de dire tout simplement... que nous avons un ambassadeur à Alger qui est sur place, qui nous tient informés de tout ce qui se passe régulièrement, et que notre souhait, c'est que tout cela ne se termine pas par un drame et par la violence, ce que je ne crois pas, puisqu'on voit bien que les Algériens eux-mêmes essaient de se maintenir dans des positions pacifiques, y compris ceux qui manifestent, mais c'est un moment suffisamment un tournant suffisamment important pour l'Algérie pour les laisser vraiment décider eux-mêmes.
L'émission se termine. Merci Jacqueline Gourault d'avoir été notre invitée. Bon dimanche à vous. Merci à toutes les trois et merci à Alexandre Gilardi et à toute l'équipe technique de Questions Politiques. Rendez-vous la semaine prochaine.